Un tango? Une danse? Un baiser? Et un sourire?
Par les temps qui courent...
Ça y est, plus 21h.
Marie Richaud.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Le 1er septembre 1981, à 18h, dans une cave humide de la butte Montmartre à Paris, commence l'aventure de Radio Libertaire. Dans des conditions défiant les lois de la radio, écrivent-ils sur leur site, dans un studio de 12 mètres carrés, ils prennent l'antenne grâce à du matériel de récupération et une équipe de 6 personnes. Il y a 3 semaines, donc 37 ans plus tard, j'allume le 89.4 et tombe sur la voix passionnée d'un homme. Il décrit la pile de disques vinyles qu'il a à côté de lui, des disques de celui qu'il appelle Léo, et il nous encourage à lui téléphoner pour lui demander la diffusion d'un morceau en particulier. J'apprendrai plus tard qu'il s'agit de Ferré Club et que l'on peut l'écouter tous les mercredis de 16h à 17h. C'est dire que la passion est vivante pour l'œuvre du poète, chanteur, compositeur Léo Ferré. En témoigne le projet C'est Extra, initié par vous, Mathieu Ferré, et par La Souterraine. Bonsoir à vous et bienvenue.
Bonsoir, merci.
Sur ce disque, des musiciens contemporains reprennent certaines des chansons de Léo Ferré, pas forcément les plus connues. Et parmi ces musiciens et ces musiciennes, Pierre Debé, bonsoir.
Bonsoir.
On va commencer par mettre les deux pieds dans le plat en vous écoutant reprendre l'une des chansons et annoncer, pendant que vous déplacez longuement, qu'il y aura un concert de C'est Extra dans le cadre du week-end Imagine au Centre Pompidou à Paris. Il me semble que ce sera le samedi soir. Pierre Debé, c'est à vous.
Je vois le monde un peu comme on voit l'incroyable. L'incroyable, c'est ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Les fleurs dans des crayons, Debussy sur le sable. À Saint-Aubin-sur-Mer, que je ne connais pas. Les filles dans du fer, au fond de l'habitude, et des mineurs creusant dans leur ventre tout chaud, des soutiens-gorge chars, des patrons dans le sud, à Marnay pour les ouvriers de chez Renault. Ailleurs, dans la dimension 4, avec la bande dessinée GMC2, je suis jamais, je suis toujours, et je suis l'âtre. Viens chez moi, mon amour, viens chez moi, il y a du feu. Je vole pour la peau sur l'air des misères. Je suis un vieux Boeing de l'an 89. Je parle à fleur aux dents pour la dernière guerre. Ma machine à écrire incomplète neuf. Je vois la stéréo dans l'œil d'une petite. Des pianos sur des ventres de filles à Paris. Un chimpanzé glacé qui chante ma musique avec moi doucement. Et toi, tu n'as rien dit. Tu ne dis jamais rien, tu ne dis jamais rien. Tu pleures quelquefois, comme pleurent les bêtes, sans savoir le pourquoi, et qui ne disent rien, comme toi, l'œil ailleurs, à me faire la fête. Dans ton ventre désert, je vois des multitudes. Je suis demain, c'est toi mon demain, de ma vie. Je vois des fiancés perdus qui se dénudent au velours de ta voix qui passe sur la nuit. Je vois fois des odeurs tièdes sur des pavés de songes à Paris quand je suis allongée dans son lit à voir passer sur moi des filles et des éponges qui sanglotent du suc de l'âge de folie. Moi, je vis donc ailleurs, dans la dimension X, avec la bande dessinée chez un ami. Je suis jamais, je suis toujours, et je suis l'X de la formule de l'amour et de l'ennui. Je vois des tramways bleus sur des rails d'enfants tristes, des paravents chinois devant le vent du nord, des objets sans objet, des fenêtres d'artistes d'où sortent le soleil, le génie et la mort. Tu ne dis jamais rien, tu ne dis jamais rien, tu pleures quelquefois comme pleurent les bêtes. Sans savoir le pourquoi et qui ne disent rien, comme toi les yayas à me faire la fête.
Je pleure surtout le matin. Je pleure surtout d'émotion. Le matin, parce que je suis débordée par des émotions incontrôlées, quelquefois. Et puis, en écoutant certaines musiques. Et une chanson que ça rate jamais, c'est « Tu ne dis jamais rien » de Ferré. Et une autre aussi, mais ça, je l'écoute très rarement, une chanson, enfin, c'est un texte parlé de Areski Belkacem, de lui-même et par lui-même, qui s'appelle La déchirure. Et là, je pleure comme une madeleine.
C'est Brigitte Fontaine qui pleure comme une madeleine. J'espère qu'elle nous écoute et qu'elle a pleuré en vous écoutant. Père Debé, vous venez de jouer en live « Tu ne dis jamais rien », cette reprise de Léo Ferré qui ouvre le disque « C'est extra ». Alors, est-ce que d'une part, vous aussi, bon, vous n'avez pas pleuré, Mathieu Ferré?
Ça m'arrive très souvent.
Mais ça vous arrive très souvent.
Je vais passer le jeu parce que vous allez y arriver.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que ça a participé, peut-être simplement votre émotion personnelle au choix de ces chansons?
Non, mais l'idée c'était de ne pas partir sur les sempiternels, joliment, c'est extra avec le teint, tout, etc. Tout, on dirait, j'ai comme l'impression que Léo il a écrit 4 chansons dans sa vie, c'est tout quoi. En fait, il y a des pures merveilles comme celle-là notamment, et puis d'autres, et donc j'avais envie de un peu donner un peu une suggestion aux interprètes qui avaient décidé de participer à ce projet-là, de choisir quelque chose un peu de hors des sentiers battus, quoi. Parce que il y a pas tout est bon chez Léo. Il y a des choses aussi que moi j'aime pas et qui je trouve ont vieilli, mais il y a tellement de choses qui sont tellement bien écrites et qui sont actuelles aujourd'hui, tellement ancrées dans ce qui se passe encore aujourd'hui, que c'est incroyable, quoi. C'est pas rassurant de l'autre côté aussi, parce que je dis ça a pas évolué vers un meilleur des mondes, mais et donc voilà quoi, c'est chansons que j'avais
Et alors plaisir. Concrètement, vous avez fait des suggestions, c'est-à-dire que vous avez exhumé le répertoire et suggéré par exemple une 50aine de chansons. Vous avez rencontré les interprètes, un par un, ou comment ça s'est passé concrètement?
Non, je les ai pas rencontrés. Je n'ai rencontré que maintenant 3 ou 4 parce que le disque a été joué en concert à Marseille, a été créé à Marseille là il y a pas longtemps, donc je suis allé assister.
Les écouter.
Voilà, c'était d'ailleurs très réussi. Mais exhumer, qu'est-ce que vous voulez dire par exhumer?
Non, je sais
pour
pas.
Moi,
exhumer,
c'est quelque chose qu'on ressort comme ça d'une boîte qui existe, voilà, qu'on a oublié. Pour moi, Léo, il est vivant, son œuvre est présente, et je pense d'ailleurs que pour nombreux des interprètes qui participent à ce projet-là, c'est pas d'une exhumation dont on parle, c'est justement d'une réinterprétation. D'ailleurs, ils l'ont fait de façon très respectueuse, très bien. Ils ont respecté les harmonies, les mélodies, les paroles, mais ils ont su donner leur propre touche, leur propre couleur, en actualisant avec leur style personnel de chacun. Donc, c'est, je trouve, très réussi. Exhumé, voilà, non, parce que pour moi, c'est Léo. Voilà, quoi, comme je vous dis, il y a tellement de choses qui sont inconnues. Il a écrit énormément de chansons, donc c'est vrai que c'est difficile pour le grand public de
les connaître toutes.
De connaître tout. Bon, je dis pas qu'il faut tout connaître. Moi, je suis tellement, je veux pas dire obsédé, mais il m'habite tellement que pour moi, tout est naturel, quoi. Mais donc voilà, j'ai donné des suggestions sur certains titres, voilà, que je pensais qui étaient forts et qui étaient, c'était, je trouvais important de remettre un peu dans les oreilles de certaines personnes, quoi. Notamment, par exemple, j'ai un exemple spécifique qui est la chanson Vitrine, qui est une chanson de 1953 et que je trouve, en dehors du fait qu'il y a quelques mots d'argot, qui effectivement maintenant on n'utilise plus l'argot, donc c'est des choses qui peuvent paraître un peu plus actuel, mais le sens de la chanson est tout à fait fort aujourd'hui, parce que voilà, quand on nous met dans des vitrines des choses que les gens peuvent pas s'acheter, quoi. C'est la société de consommation qui était en 1952, que Léo commençait à subodorer, à voir, qui était déjà présente. Aujourd'hui, c'est vraiment l'empire du capitalisme et l'apothéose de cette chose que, voilà, quoi, les pauvres gens, ils voient des choses qu'ils peuvent pas se payer, et puis qu'ils s'endettent, et puis, etc., quoi. Donc, c'est, malgré le fait qu'il y ait effectivement des mots d'argot, je pense que c'est une chanson tout à fait précise et qui est un peu visionnaire quelque part.
Et alors, la chanson qu'on vient d'entendre, elle faisait partie dès le départ de vos souhaits chers pour que les chansons.
Objectivement, je me souviens pas. Moi, j'ai donné toute une série de sélections de ce que j'avais envie de proposer plus spécifique dans le détail, mais certainement, Tu ne dis jamais rien fait partie d'une des œuvres plus importantes dans l'œuvre de Léo, et c'est pas à moi de dire ça, quoi. Brigitte Fontaine l'a dit très bien.
Vous l'avez rencontré comment, cette chanson-là, PR2B?
Bah, du coup, en fait, moi, j'ai rencontré Tu ne dis jamais rien en cherchant, parce que ce qui est assez drôle, c'est que, du coup, moi, c'est la souterraine, du coup, précisément Benjamin Cascara qui m'a demandé au moment, enfin, ça faisait, je crois, même pas 3 semaines qu'on s'était rencontrés avec la souterraine, personnellement, entre PR2B et la souterraine. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse?
Donc, la souterraine, petite piqûre de rappel, c'est une plateforme qui, depuis quelques années, met en connexion tout un pan de fabricants de musique française avec un public, ouais, qui le cherche.
Tout à fait. Ouais, voilà. Et du coup, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire une reprise, une réinterprétation d'une chanson de Léo Ferré. Enfin, d'abord, il m'a demandé, mais ça, peut-être on en parlera plus tard, quel était mon rapport à Léo Ferré. Du coup, je lui ai répondu. Et ensuite, il m'a dit, ben, écoute, cherche une chanson. Et la seule chose, c'est ce qu'a dit Mathieu, c'est on fait pas joli môme, on fait pas, enfin, les sempiternelles qu'on voit sur les best-of premiers, voilà. Et en fait, moi, je connaissais par mes parents aussi assez bien l'œuvre de Léo, mais je connaissais pas cette chanson et je suis allée me plonger un peu dans différentes chansons. Et pour le coup, il m'est arrivé un peu ce qui est arrivé à Brigitte Fontaine, c'est-à-dire que j'étais assez émue, assez bouleversée par cette chanson, le texte que je trouvais sublime et cette, enfin, et même son orchestration. Un orchestre, enfin, c'est là, moi je suis avec mes machines, mais c'est piano et orchestre, c'est très beau. Et donc et en fait, il s'avère que c'était la chanson, et du coup la souterraine, on dit bon bah très bien, vas-y, lance-toi. Et donc c'est comme ça que j'ai choisi cette chanson.
Quand vous chantiez, on sentait que c'est un texte qui est complètement en vous. Maintenant, on entendait Mathieu Ferré dire que Léo, comme vous l'appelez, est complètement en vous, vous habite complètement. Là, vraiment, j'avais la sensation que ce texte, il était, oui, très à l'intérieur de vous, quoi. Comme si c'était au-delà de « je l'ai appris par cœur ».
Oui, bah, enfin, on en a déjà parlé avec Mathieu. Ce que je trouve assez incroyable dans la poésie de Léo Ferré, c'est que c'est une langue vivante, qui est une poésie qui est toujours vivante, et c'est une poésie qui nous échappe, enfin, qui est toujours là. Enfin, c'est, il y a une anecdote qui est sans doute un peu triviale, mais par exemple, typiquement pour l'apprentissage du texte, c'est une poésie qu'on ne peut pas apprendre par cœur si on ne la ressent pas. Et c'est assez drôle, dès qu'on n'est pas là ou un peu absent, elle disparaît. elle demande une rigueur
de présence.
Oui. Et pour, je sais pas, je pense n'importe quel musicien interprète, c'est assez incroyable parce que c'est plus que une chanson, c'est une expérience. Et moi maintenant, c'est une chanson que je fais aussi sur mes lives, dans mes concerts. Et à chaque fois, j'ai l'impression que je commence un voyage et elle me laisse, je finis avec la chanson changée, quoi. Et à chaque fois, il y a des nouvelles.
Vous êtes changé ou c'est la chanson qui
c'est un peu des deux, mais quand même, moi, je suis changé parce que c'est une manière d'utiliser les mots tellement forte que tout d'un coup, je sais pas, quand j'entends, je sais pas, la dernière strophe, je vois des tramways bleus, il m'arrivait parfois tout d'un coup de là le voir, enfin de le comprendre, alors que et parfois je sais pas, c'est moi je vis donc ailleurs dans la dimension 4, il y a des moments où là je me dis bah oui, enfin, et à chaque fois les mots se révèlent à des endroits différents en fonction de mes journées, mais à chaque fois ils me prennent, quoi. Voilà.
Et d'ailleurs c'est une chanson qui accumule des visions beaucoup. Je vois si bien que en effet on a l'impression, moi je fermais les yeux en vous écoutant, de construire un monde de visions, quelque chose qui se révèle petit à petit. Idem pour vous, Mathieu Ferré, lorsque vous écoutez cette chanson, par exemple, c'est un monde visuel qui s'ouvre, un monde imaginaire.
Mais de toute façon, pour moi, Léo, c'est un texte poétique comme celui-ci. Quand j'avais 20 ans, je le percevais d'une façon. Aujourd'hui, j'en ai 50, je le perçois d'une autre façon. C'est un mouvement, quoi. Et Père de Bélé, quelque part, rentrer dans le continent, Léo, je pense qu'elle va voir difficile d'en sortir. Justement, tu ne dis jamais rien, ou de nombreuses autres. Donc, c'est cet aspect-là qui me touche, moi, qui m'intéresse de développer, de porter en avant, quoi.
Et vous l'écoutez beaucoup, la musique de Léo Ferré?
Oui, c'est dans mon quotidien.
C'est vrai?
Oui.
Et vous l'écoutez comme une musique ou vous l'écoutez comme la présence de votre père?
C'est aussi mon travail. Mon père, c'est fini, il est mort, il est dans un trou, on n'en parle plus, quoi. C'est Léo Ferré, c'est son œuvre qui m'intéresse. D'ailleurs, je travaille aussi avec des éditions, donc je m'occupe de faire des rééditions de livres, de disques. Donc c'est aussi
mon activité.
Mmh. D'ailleurs hier j'entendais Père de Bé dire que justement elle avait écrit à la main les textes des chansons. Ça c'est important parce que ça vous permet. Moi j'ai tout écrit, retapé à la machine, c'est sur l'ordinateur parce que j'ai fait des publications et tout ça. Et quand vous l'écrire à la main ou sur un ordinateur, c'est un peu équivalent quelque part, mais ça vous permet de rentrer vraiment dedans parce que en profondeur vous l'appropriez de façon beaucoup plus personnelle, intense. De toute façon, Léo, voilà, il parle à l'individu, je pense. C'est pas un truc, voilà, quoi, pour les masses, c'est pas c'est pas la chanson festive et tout, voilà, quoi, ça demande, voilà, comme je disais tout à l'heure, un effort, mais qui vous change. Moi, je connais beaucoup de gens qui m'ont raconté leur parcours en écoutant Léo et qui m'ont toujours dit, voilà, quoi, nombreuses personnes qui m'ont dit, depuis que je connais Léo, je suis plus comme avant, quoi, ça m'a changé dans ma façon de voir le monde, etc. Donc, voilà.
Qu'est-ce qui a changé fondamentalement, puisque vous dites entendre ou voir les chansons différemment lorsque vous étiez un homme de 20 ans et maintenant que vous êtes un homme de 50 ans? Est-ce que c'est plein de petites micro-choses qui ont changé ou est-ce qu'il y a des choses qui ont radicalement changé dans la manière dont vous entendez cette musique?
C'est parfois comme une bulle qui explose. Voilà, vous avez une phrase, un vers, un couplet, tout ça, et puis vous dites ah, et puis.
Vous avez
une illumination, vous avez voilà quoi. Alors après probablement que c'est pas ce que Léo voulait dire du tout. D'ailleurs moi il y a beaucoup de choses que encore aujourd'hui je me dis qu'est-ce que ça veut dire ça. Et c'est ça, ça me plaît parce que ça me donne la curiosité de me dire qu'est-ce qu'il voulait dire, pourquoi là, qu'est-ce que ça peut. Et ça m'intéresse, ça me fait fonctionner ma petite matière grise, et voilà, quoi. Tandis que si c'est pour entendre « Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa des pomodores », voilà, quoi. Maintenant, on dit la chanson, c'est comme de la poésie. Je suis pas d'accord. Absolument, absolumentissime pas d'accord. Parce que la chanson, il y a des chansons, hein, de divertissement, de variété, de tout ce que tu veux, avec, voilà, quoi, des, et qui sont pas pour moi de la poésie. Ça peut, Voilà, c'est de la chanson, mieux ou moins bien écrite. Et puis après, effectivement, il y a des choses, des fois, parfois, Léo en a écrit, et puis d'autres aussi, il n'y a pas que Léo, mais qui peuvent, effectivement... C'est quoi de la poésie, en définitive ?
Je n'ai pas ce mépris qui s'exprime ici ou là pour les formes les plus récentes de la chanson. Et j'ai, par exemple, parmi les chansons que j'ai entendues chanter à Johnny Hallyday, pour en rester simplement là, il y en a que je considère comme de très belles chansons. Ce n'est pas parce que l'expression du sentiment est faite avec quelques mots, par des moyens autres, qu'elle perd de l'intensité. Au contraire, vouloir opposer une forme de chanson à l'autre, tuer une chanson par l'autre, voilà le mauvais coup qu'on nous fait. Et je ne m'associerai certainement pas à ce dénigrement d'une forme de la chanson qui plaît à la jeunesse, ce qui ne me paraît pas mauvais, et qui plaît aussi, comme vous voyez, à de vieux bons hommes comme moi. Il n'est pas du tout certain, il n'est pas couru, que les chansons qu'on méprise aujourd'hui et qu'on tient pour le fait de la mode ne seront pas celles qui auront leur grain d'éternité. En tout cas, qu'il s'agisse du fait que la poésie gagne dans tout cela, je pense que oui, c'est toujours la poésie qui gagne, mais que la poésie gagne avec moi, avec nous, je veux dire les poètes qui font métier de poète, ou qu'elle gagne avec des inconnus, avec des mots que l'on considère comme des formes dévaluées de la poésie, peu importe, c'est toujours la poésie qui gagne. Et peut-être que plus tard, on considérera Johnny Hallyday comme le roi de Navarre.
On est en 1963, c'est Louis Aragon qui parle de la poésie, de la chanson. Alors je ne sais pas s'il s'exprime directement et s'il parle de Léo Ferré. En tout cas, ça avait un drôle d'écho avec ce que vous venez de dire avant.
Je ne pense pas qu'il parle de Léo spécifiquement dans le cas précis, aisément. Et en définitive, ce que je venais de dire juste avant était tout à fait...
Une introduction parfaite à cette archive.
Ouais, mais je trouve que on ne dit pas du tout la même chose.
Ah bah non, justement. Pas du tout. Absolument pas.
Donc je suis en définitive assez...
En désaccord
dans ce
avec
cas,
Aragon.
Dans ce cas précisément, je suis assez en désaccord avec ce que vient de dire dans cette interview Aragon. Tout à fait.
En opposant, parce que lui dit que voilà, il ne faut pas opposer deux chansons, alors que vous disiez que peut-être il y a intérêt à les opposer, ou en tout cas à hiérarchiser certaines chansons par rapport à d'autres.
Non, je n'ai pas dit tout à fait ça. Je ne dis pas qu'il faut... Non. J'ai dit qu'il y a des chansons qui sont plus, voilà, des chansons qui sont écrites pour divertir, qui sont pas pour écrites pour divertir, mais qui ont aucune prétention, voilà,
poétique, c'est quoi.
Qui sont voilà, mais je pense pas que un auteur de chansons ou quelqu'un qui écrit de la musique dise ah ben là je vais faire une chanson pour faire le tube et pour faire voilà quoi la chanson à la mode ou ce qu'on veut, et puis ah ben non, maintenant je vais faire une chanson, je vais faire la poésie, tout ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Des gens qui font de la merde, ils le font depuis le début et puis jusqu'à la fin, et puis c'est comme ça, hein. Donc je suis désolé, je suis assez en définitive hostile à la chanson.
Ah ouais.
Ouais, en définitive, oui. J'ai peu de plaisir en définitive à écouter la plupart des choses. Je trouve que c'est souvent ennuyeux et vide.
Et on vous a mis des musiciens, des chanteurs contemporains dans les pattes.
Mais c'est justement parce que ils ont voulu faire ce parcours. Et puis dans leur, je connais pas bien ce qu'ils font chacun individuellement, bien sûr. Mais alors je vais écouter. Mais quand on a envie de faire, quand on veut faire quelque chose sur Léo, notamment un disque avec des reprises et tout ça, vous avez deux façons de faire, je pense. Soit une façon parce que vous dites, ah ben ça peut être bien pour
dans
mon...
ma carrière,
voilà, etc. Voilà. Bon, j'aime bien, mais bon, ouais, je pourrais faire de tout et n'importe quoi. Et puis l'autre qui dit, ah ouais, tu vois, non, ça me plaît parce que j'ai envie de le défendre et j'y crois et ça me plaît, ça me touche, ça me change, ça, c'est voilà quoi, ça m'a ouvert une porte, justement.
Et absolument, manifestement, c'était votre cas. PR2B, vous disiez tout à l'heure, j'avais un rapport à Léo Ferré, à son œuvre qui préexistait, cette proposition de La Souterraine et de Mathieu Ferré. Lequel ?
Un rapport familial. Enfin, mes parents écoutaient énormément Léo Ferré et principalement ma mère, qui écoutait beaucoup, 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 et qui avait, du coup, elle n'avait pas les best-of, elle avait les albums qu'elle écoutait en entier, un peu religieusement. Religieusement n'est pas du tout le bon terme pour parler de Léon Ferré, mais enfin, en tout cas, c'est un rapport, c'est une musique, et c'est des textes que j'écoutais, une voix aussi. Et ça, et en fait, c'est ce que je disais à Mathieu aussi hier quand on s'est vu, c'est le même rapport. C'est-à-dire, quand j'étais petite, j'entendais la voix, je voyais aussi les pochettes d'albums et ce visage et ce corps que je trouvais assez fascinant. Enfin, il y avait quelque chose comme ça, ce monsieur hyper impressionnant et cette voix et cette manière de dire. Et parfois, il s'avère que, j'écoutais aussi des lives piano quand il s'arrêtait, quand il parlait. Enfin, j'avais cette chose-là. Et puis ensuite, quand j'ai grandi, j'ai commencé à aussi entendre les textes et à me plonger. Et après, et dans ma période, je sais pas, fin collège, début lycée, je commence à manger de la poésie pour le coup, mais et voilà. Et à l'internat, en avoir un peu marre de mes compatriotes, du coup j'allais à la bibliothèque et j'ai découvert là vraiment plus intimement, donc personnellement, me détacher de mon rapport juste personnel et familial.
Et en le lisant sans l'écouter.
Rarement quand même, mais ensuite, je crois qu'on, moi, je viens d'une génération où on aimait bien aller voir les, enfin, on écoutait les chansons et ensuite on allait voir les paroles pour les garder avec nous. Au début d'Internet, c'était aussi une manière de les avoir à soi, et donc je sais pas, j'ai fait ça aussi, mais c'était. Et ensuite, après, j'étais tombée sur une émission de Bernard Pivot où il y a
apostrophe.
Ouais, voilà, où il parle aussi de ce que, enfin, il vient de publier un livre avec toutes ses chansons.
Testament phonographe.
Voilà, et en fait, il y a une femme dont j'ai oublié le nom qui dit, elle dit une chose que je trouve intéressante. Elle dit, c'est drôle.
Dans l'émission.
Ouais, elle dit une chose intéressante juste pour l'utilité. D'ailleurs, il sourit, Léo, parce que je pense qu'il y a plein mal de choses où on lui pose des questions et il a vraiment envie de dire, oui, est-ce que vous voulez vraiment que je vous parle de ça? Enfin, ou genre, comment avez-vous écrit avec le temps? Des choses comme ça. Et elle lui dit, c'est drôle parce que souvent, c'est un tel flow que parfois j'ai envie de vous arrêter et d'écouter tout. Et quand j'ai le livre, je peux m'arrêter sur ce que vous dites, quoi. Et ça, je trouve c'est assez beau parfois, de lire ce qu'on écoute.
Quand vous dites que c'était une sorte de bain sonore parce que votre mère écoutait beaucoup Léo Ferré, est-ce que ça dépassait ça? Est-ce qu'on vous a transmis en vous disant qui était cet homme, peut-être la manière dont votre mère pouvait vous parler de son propre rapport à cette musique, ou simplement elle était jouée dans la maison ou dans la voiture ou à la radio, et puis point barre, il n'y avait pas spécialement de transmission plus fine que ça?
Non, après, ça c'est, je pense que c'est... Non, il y avait tout un discours. Après, mon père, qui n'est plus tout le monde, mais il était musicien, il était guitariste, avec une grosse tendance anarchiste, donc il y avait aussi une pensée aussi de qui était Léo Ferré, donc c'est, il y avait aussi tout un après il y a toujours eu quand même une liberté dans ma famille de la musique, du coup pas une volonté d'inculquer, mais écoute, si tu veux on t'en parle, si tu ne veux pas tu reviendras, enfin c'est comme les films, aucun film est interdit, mais si à un moment tu te dis ouh, et ben t'arrêtes et tu reprendras quand t'auras 15 ans. Enfin, et ce qui d'ailleurs, je trouve, est la meilleure manière de découvrir les artistes, c'est quand on est prêt.
Ce poète tendre, ce troubadour, va-t-il ressusciter pour nous la romance du fond des cours? Écoutez.
Par les temps qui courent.
Marie Richaud.
Monsieur Toublon, vous enseignez la charité bien ordonnée dans vos châteaux en Italie. Monsieur Toublon, la charité, c'est très gentil. Mais qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi, pendant ce temps-là, moi je vis à Aubervilliers. C'est un petit coin perdu au bout de la misère, où l'on n'a pas tellement de questions à se poser. Pour briefer, faut bosser, mon petit père. Monsieur Toublon, l'oiseau blessé...
Non, non, n'écoutez pas. n'écoutez plus. Car Léo Ferré chante des chansons violemment antireligieuses qui, parce qu'elles risquent de troubler la sérénité vespérale des familles, sont indésirables à la radio. Mais la radio, allez-vous dire, encourage en revanche d'autres chansons, c'est vrai. La radio organise des concours et distribue des prix. L'auditeur doit bénéficier ainsi d'une écoute plus paisible.
Voilà qui est plus correct. On est en 1951, c'est une archive de la RTF. Est-ce que vous pouvez la décrire, nous parler de cette archive, Mathieu Ferré? Moi, est-ce que c'est complètement une blague? Est-ce que la censure est mise en scène à ce moment-là? Comment
lui,
ça se passe?
Le journaliste, on va dire, c'était Francis Claude, donc c'était un ami de mon père. D'ailleurs, ils ont écrit plusieurs chansons ensemble. Ils se connaissaient très bien et qui avait des cabarets à Saint-Germain. Léo allait jouer dans ses cabarets. Et puis Francis Claude avait des émissions à la radio, donc il faisait venir Léo. D'ailleurs, il y avait une série qui s'appelait Au fil de l'eau, et puis comme ça, ça faisait faire un cacheton à Léo, qui venait, il faisait une chanson, et puis voilà, quoi. Donc, c'est la première fois que j'entends ça, comme ça. C'est, je dois dire, très amusant. Francis Claude était un peu un comique, un marin, quoi. Donc, c'est tout à fait ironique, mais
mais ça dit quelque chose, quand même, du sort qui était réservé à certaines chansons de Léo Ferré. Non,
c'est pas par rapport à la, je crois pas que ce soit par rapport à la censure. Je crois que c'est aussi un peu un mythe, cette histoire de la censure.
Ah bref. Oui, d'accord, justement, je voulais vous demander.
Je pense que c'est, plutôt par rapport à par rapport à l'église, à la censure par rapport aux catholiques et tout ça. Parce que là, c'est une chanson sur Monsieur Toublin, c'est le pape, hein. Parce que pendant la guerre, il avait rien dit par rapport aux nazis qui ont fait toutes les saloperies qu'ils ont fait, et le pape était informé et au courant, et il a jamais rien dit, son silence qui a quelque part cautionné cette saloperie qu'ils ont fait, donc voilà quoi, donc c'est ça l'histoire de cette chanson là, mais oui, la censure. Alors voilà, la censure, qu'est-ce que c'est? Oui, il y a un disque qui est sorti en 61, les chansons interdites de Léo Ferré. Je sais pas, moi, s'il y a vraiment eu l'interdiction de s'il y avait un bureau, je sais pas vous dire ça. Mais à mon avis, oui, c'était les médias, les radios qui passaient pas d'eux-mêmes, parce que voilà. Mais après, dans les concerts, Léo, il a toujours fait ces chansons-là.
Mais c'est pas la même chose de chanter les chansons qu'on veut dans un concert et d'être diffusé sur la radio et la radio nationale, par exemple.
Ah oui, mais ça, c'est une chose. Oui, mais aujourd'hui, ça existe pas aussi.
Bien sûr que si, ça existe.
Voilà, c'est une auto-censure.
Bien sûr.
Alors, ça change quoi?
Oui, mais ça veut pas dire que ça n'a pas existé, c'est ça que
Ah oui, non, je dis pas que. Oui, oui, ah ben oui, ça existait certainement. Ça, c'est sûr que ça existait, oui. Que ce soit un bureau qui dise, ah ben, on met un tampon, ça. Jamais il faut le passer. Sûrement qu'il y avait des bureaux qui faisaient des choses comme ça. Oui, ça, il ne faut pas le passer, d'accord. Mais je ne pense pas qu'il y avait vraiment un organisme officiel de l'État dans lequel il fallait passer les disques et tout ça, disant ça, non, ça, vous ne pouvez pas le publier, disquer, il faut les détruire. Ça, je sais. Voilà, c'est une autocensure un peu. Mais je n'en sais pas trop exactement dans le détail, je ne sais pas trop rien, quoi. Mais voilà, plutôt une autocensure de la radio elle-même. Ouais.
Est-ce que c'est quelque chose dont vous parliez, ça, par exemple, de la manière dont sa musique était diffusée, des différents moments de la diffusion de sa musique, plus ou moins facile, plus ou moins difficile?
Vous savez, quand je suis né, mon père avait 54 ans déjà, donc, et quand il est mort, j'en avais 23, moi. Donc j'ai eu... l'enfance, alors quand vous êtes enfant, vous parlez pas de certains trucs avec vos parents, hein. Voilà. Et puis après, quand vous commencez à être un petit peu plus grand, et puis moi je suis très enfantin en définitive, donc je suis très très naïf et très un peu enfant encore. Et donc il y a des choses, voilà, auxquelles je pensais même pas, donc voilà. Et puis après, quand il est mort, j'avais 23 ans, et ouais, c'était fini, quoi, donc... c'est court, en même temps, c'est plus long que mes sœurs, qui sont encore plus jeunes que moi, donc... voilà. Non, c'était quelqu'un de... En fait, beaucoup plus marin et comique de ce que les gens peuvent imaginer. Les gens imaginent Léo comme étant quelqu'un de très... voilà, quoi, qui était d'ailleurs comme ça, très... ouais, on va faire la révolution, là, ouais, on va tout casser, l'anarchie... oui, certainement, comme il disait, moi, j'aime pas te prendre des coups de pied au cul... Est-ce que vous connaissez, vous, beaucoup de gens qui ont envie de prendre, qui aiment ou qui ont envie de prendre des coups de pied au cul? Non, quand vous en prenez un, vous râlez ou vous révoltez. Sinon, voilà, quand vous êtes vraiment, vraiment, de façon perdument dans le troupeau des brebis, quoi. Et donc, voilà, mais sinon, en dehors de ça, c'était quelqu'un qui racontait des histoires, des blagues, c'était quelqu'un de très généreux, il a aidé beaucoup de personnes. des amis à lui, forcément, tu pouvais pas, il pouvait pas aider tout le monde, quoi, parce que voilà, quoi, c'était pas Johnny Hallyday, justement. Et de toute façon, Léo, il n'y a pas 15 solutions, c'est soit on l'aime, soit on le déteste. Et je suis très content qu'on le déteste encore aujourd'hui, parce que ça veut dire que ce qu'il vous raconte, c'est, ça dérange certaines petites âmes conscientes encore, et ça veut dire que c'est bien fort, et que ça gêne certains, et c'est bien que ce soit comme ça, et tant mieux, et c'est bien qu'il passe pas beaucoup à la télé, assez rarement, comme ça, ça le rend encore plus, justement, un peu mystérieux, et voilà, quoi, ça ne le banalise pas, parce qu'aujourd'hui, sinon, ça devient une sorte de banalisation, et tout est n'importe quoi.
Tout à l'heure, vous disiez que lorsque vous écoutez sa musique, vous le faites aussi parce que c'est votre travail, parce que c'est vous qui gérez ce patrimoine aujourd'hui, cette œuvre vivante. Mmh. Comment ça s'est passé pour vous d'avoir cette place-là? D'avoir la place de celui qui, alors à la fois toute naturelle, mais en même temps assez singulière, celui qui décide comment vit une œuvre?
Ah non, personne décide comment vit une œuvre. Aujourd'hui, si Rimbaud, Baudelaire ou Verlaine sont encore lus et étudiés...
C'est parce que Rimbaud et Verlaine eux-mêmes, je suis d'accord.
Voilà, quoi, vous pouvez faire n'importe quoi. Je veux pas citer des noms parce que c'est pas mon rôle, et c'est pas juste, et c'est pas comme ça que je suis pas comme ça. Donc, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent, vous pouvez mettre toute la publicité dessus, oui, ça va marcher pendant un temps, et voilà, mais après, à un moment, ça disparaîtra, quoi. Alors, peut-être que Léo est voué à disparaître aussi, je dis pas le contraire, hein, attention, je dis pas que les autres, c'est pas bien, et Léo restera, et peut-être que ça va être l'inverse, je sais pas, c'est pas moi qui, j'ai pas d'instrument pour dire ça. Mais en tout cas, je vois mal comment pouvoir dire, voilà, comment je peux, moi, faire vivre. C'est pas moi qui fais vivre une œuvre, c'est l'œuvre en elle-même qui se véhicule. Après, moi, j'essaye de...
Vous ne vous sentez aucune responsabilité par rapport à ça, ou aucun pouvoir?
Non, mais je n'ai aucun pouvoir. Parce que si j'avais le pouvoir de faire ce que je voulais, je peux vous dire que ce serait pas tout à fait la même chose, quoi.
C'est-à-dire?
Je veux pas rentrer dans le détail, mais quand un artiste décide d'enregistrer des chansons de Léo, aujourd'hui, c'est pratiquement impossible d'aller voir, entre guillemets, une vedette ou comme ça, et de lui dire, ah, tu pourrais chanter. C'est quoi le travail de l'éditeur aujourd'hui, en 2018, par rapport au travail de l'éditeur en 1945 ou en 1950, ou au début du disque et de l'arrivée du micro-sillon et tout ça? C'était tout à fait différent. Il y avait déjà beaucoup plus d'interprètes. Le travail de l'éditeur, c'était vraiment de prendre des partitions, de prendre des auteurs et des compositeurs, et d'aller voir des interprètes, de faire vraiment ce lien. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est dans l'industrie du disque. Donc bon, moi, qu'est-ce que vous voulez, que j'ai aucun pouvoir là-dedans, moi. Je me vois mal et j'ai aucune possibilité d'aller voir machin ou machine, en lui disant, mais tu sais, ça tirait bien, tu devrais faire ça, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Donc moi, qu'est-ce que je fais techniquement pour essayer de faire survivre l'œuvre? Je fais ça, mais c'est difficile. C'est comme envoyer une bouteille, un message in a bottle. C'est voilà, quand vous envoyez mettez un message, une chanson dans une bouteille, puis vous l'envoyez dans l'océan, et puis vous attendez qui c'est qui va la pêcher. Non, moi, ce que je fais, c'est beaucoup plus techniquement, c'est rééditer les disques de Léo et faire que son catalogue, son œuvre enregistrée, qui a plus de 40 albums studio, soit le mieux distribué possible, de la meilleure façon, que ce soit le plus accessible possible, ce qui est aussi, ça c'est un combat, parce qu'aujourd'hui les disques c'est de plus en plus dur, parce qu'il y a moins de place dans les magasins, parce que les gens achètent plus de disques, etc., etc. Attention, je me plains pas, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc déjà, moi, si j'arrive aujourd'hui encore à avoir le catalogue de Léo en physique, parce que moi, je suis quelqu'un qui... Je suis un homme du passé un petit peu, quoi. J'aime bien le disque, quoi. Voilà, et bien, c'est déjà mon travail. Puis de publier les œuvres. Par exemple, il y a quelques années, on a fait avec Gallimard une coédition, un gros bouquin, il y a 1600 pages, ça s'appelle Les Chants de la Fureur. Il y a l'intégralité de toute l'œuvre de Léo écrite. Donc voilà, c'est comme ça que j'essaye de faire mon travail. Après, qu'est-ce qui se passera, qu'est-ce qui passera pas, je sais pas, mais moi, je fais, voilà, quoi, mon petit travail de mécanisme, d'artisan du disque, de petits disques, de petits éditeurs, et puis voilà, quoi.
Vous avez senti une responsabilité particulière ou quelque chose... Oui, c'est ça, une responsabilité particulière à reprendre une chanson de Léo Ferré, PR2B. Où vous avez joui d'une totale liberté en vous-même.
C'est, je sais pas si je pourrais dire, enfin une responsabilité, enfin le mot responsabilité me semble un peu autoritaire, enfin et en même temps une totale liberté, c'est, je pense, c'est, il y a une parole qui n'est pas la
vôtre.
Donc ça, c'est quelque chose d'important et qu'il faut toujours qu'à chérir. Enfin, après, je trouve que il y a quelque chose. C'est un. Enfin, pour moi, la réinterprétation, c'est quelque chose qui est toujours compliqué, en même temps assez magique. C'est-à-dire, à la fois, il faut avoir un respect total. C'est-à-dire, il y a une œuvre, quelque chose qui qu'on doit aimer assez pour se dire qu'on va la reprendre. Et ensuite, il faut avoir, je pense, quand même un tout petit poil de malice pour se dire qu'on va vouloir l'amener autre part. Parce que si on reste et on est emprisonné devant, enfin, c'est comme, je sais pas, quelqu'un qu'on admire, souvent on bégaye, on n'y arrive plus et on a l'air souvent assez bête et il valait peut-être mieux pas lui parler à ce moment-là. Et c'est pareil, je trouve, de reprendre quelqu'un qu'on aime beaucoup. Si on se dit pas que on veut lui dire autre chose, et mais avec ses mots, autant l'écouter.
Enfin, et cette malice-là, elle s'est jouée pour vous au niveau de l'orchestration, par exemple? Elle s'est jouée dans votre propre interprétation, dans la voix, tout simplement, dans qui est la vôtre?
En tout cas, moi, je me suis dit juste qu'il fallait que je le fasse le plus sincèrement possible avec ce qui j'étais, c'est-à-dire du coup partir aussi de moi, c'est-à-dire mes machines, et en même temps, vu qu'il y a la partition, c'est une partition pour orchestre, je pouvais pas rentrer dans, j'avais pas envie d'entrer dans quelque chose de minimaliste. Je voulais garder ces couches parce que je trouve que la ligne des violons, tout ça, enfin, il y a la ligne au piano, et moi, je sais qu'on m'avait envoyé les partitions, du coup j'avais juste la partition piano avec la voix, et du coup je me suis dit, mais
il vous manquait de la masse.
Mais parce que quand on écoute, c'est ça qui est sublime, et Léo Ferré, c'était un grand orchestrateur, et il savait diriger des orchestres, quand même, et je trouve que, par exemple, ce qu'il fait avec les violons dans toutes ses chansons, enfin tout la partie violon, est assez incroyable. Donc avec mes machines, où moi je peux pas avoir, j'ai pas j'arrive pas à travailler orchestralement, par contre je travaille en couches, et c'est ce que je fais aussi dans mes mélodies, voilà,
musique,
dans ma propre musique. Je me suis dit que j'allais partir de ça, et donc d'avoir ce je vois et ce texte, et ensuite de rentrer là-dedans. Et ensuite je viens aussi du cinéma, et c'est un peu comme quand on pose quelque chose en montage et que tout d'un coup, je sais pas, il y a un son qui est arrivé, au montage, il arrive des accidents comme ça qui sont beaux, et il faut toujours les respecter. À partir du moment où on lutte, faut arrêter et on jette.
Enfin, et dans le cas précis, quel accident est arrivé?
Alors, non, alors il est pas arrivé de gros accidents. J'ai fait le clip pour là, il y a eu un accident très heureux parce que j'avais tourné mes pas, enfin, moi qui marche. Et c'est drôle parce que je l'ai posé en montage et ça marchait absolument rythmiquement parfaitement alors que je n'avais pas, voilà. Du coup, ça, c'est des petites magies, on se dit quand même que voilà. Ensuite, là, sur cette chanson en particulier, en fait, très vite, j'ai composé en fait, tout ce qui est les violons, enfin, tout la nappe derrière et la voix, et il y a quelque chose qui s'est passé quand j'ai chanté, en fait. C'est la voix, le texte. Il n'y a pas vraiment eu d'accident, mais par contre, il y a une rencontre, je pense que ça s'est
évidente.
Oui, cette version-là, finalement, j'ai travaillé pendant une semaine sans m'arrêter, mais elle est arrivée assez vite, comme une sorte de souffle, comme ça.
Mai 68 est arrivé. Alors c'est extraordinaire parce qu'il est arrivé en même temps que... c'est-à-dire que chez moi-même, j'ai fait un mai 68. La révolution a été faite deux fois. Chez moi, dans mon quartier de gonzesse, et dans la rue. Le 27 mars, je suis parti. Et le 27 mars, il y a eu cette histoire de Nanterre. Et le 10 mai, je chantais à la Mutualité. Et j'avais répété avec mes copains là, à 6 heures du soir. Quand on a fini de travailler, on est allé dans un bistrot qui se trouve dans le coin. Et qu'est-ce que j'ai vu arriver? Ça, je n'avais jamais regardé, ça m'a mis les larmes aux yeux immédiatement. Les élèves de l'université et leurs professeurs étaient dans la rue. Ils marchaient, ils allaient vers, allez savoir vers quoi, vers le bonheur, vers la tendresse républicaine ou révolutionnaire. Et il y avait des drapeaux rouges et des drapeaux noirs. Alors là, ça m'a tué. Des jeunes m'ont reconnu, ils sont venus, j'étais sur le bord du bistrot, ils m'ont demandé de venir avec eux. J'ai dit non, je chante tout à l'heure, c'est pas possible, je peux pas venir. Et dans la nuit, il y a eu cette espèce de révolution un peu dure, quoi, sans coup de feu, quoi. Et voilà, mai 68, ça a tout changé, c'est la porte ouverte. Elle est encore un peu ouverte, il faudrait la pousser un peu. Hein? Allez-y un peu, poussez un peu la porte. Là. On n'est plus en 68, on est en 91. Il faut pousser un peu, allez, poussez. Poussez, poussez. Eh oui, si vous poussez, la porte s'ouvrira.
Il y a la pain sur sang, ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés, ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves en mutant, et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Il y en a pas sur cent et pourtant ils existent. La plupart fils de rien ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur de les anarchistes. Ils sont morts 110 fois pour que dalle et pourquoi avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Y'a la fin sur sang et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier qu'il y en a pain sur sang et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les
live à Bobino qui succède à une archive de 1991 et Léo Ferré qui dit qu'il a fait deux 68, un dans ce qu'il appelle son cercle de gonzesses et
ouais,
un autre
dans la rue. Il a quitté sa femme Madeleine et ça a été dramatique.
Mars 68, c'est une révolution dans son
voilà,
intimité.
Voilà, dans sa vie privée et puis c'est quand même étrange que ça arrive tout ça en même temps. Enfin, étrange.
Non, mais pour lui, en
ça
tout cas, c'est étonnateur.
Ça fait un moment qu'il y avait de l'eau dans le gaz avec sa nana, il faut dire aussi. Il racontait, c'est lui qui l'a raconté, c'est pas moi. Moi, je suis né en 70, donc je sais pas. Moi,
j'étais pas là.
J'étais pas là, donc voilà. Occhio non vede, cuore non duole. Et donc.
Moi, je voulais vous faire parler de, ce, de cette ferveur qu'on entend dans cet enregistrement à Bobino, où on entend hurler les gens, on les entend applaudir pendant la chanson, on les entend hurler après, dans les applaudissements. Est-ce que parfois, vous êtes méfié justement dans la manière dont cette œuvre existe, et par exemple dans ce projet avec La Souterraine, d'une adhésion si forte, ou d'une adhésion parfois sans bornes à la personne et à l'œuvre de Ferré?
Pourquoi je devrais... Non, je pense que c'est...
Parce que lui s'en méfiait aussi, parfois.
Je pense que tout artiste qui a un applaudissement comme ça et prouve une satisfaction, du bonheur, il est heureux, quoi, je veux dire. À la fin de sa carrière, par contre, quand il faisait Avec le temps, il disait ça, c'est ma chanson.
Et il demandait de ne pas applaudir.
Ah, ça c'était dur, ça. Oh là là. Donc le poser, quoi.
Il terminait les concerts avec cette chanson Avec le temps et il demandait à partir dans le silence.
Oui.
Vous avez déjà assisté à un concert de Léo Ferré?
Ah bah oui.
Et vous étiez dans la fosse ou vous étiez en coulisses?
J'étais partout, dans la fosse, dans les coulisses, sur scène, parce que Hôtel P2G, au moment où ils avaient fait installer comme ça, il y avait tellement de monde qui voulait aller le voir, ils avaient mis du public sur la scène, avec des chaises comme ça. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Mais 69, Bobino 69, là c'était en janvier, ça devait être quelque chose, j'aurais bien voulu assister à ça, quoi.
Quand vous dites que l'œuvre de Léo Ferré a des choses à dire à notre temps, alors lui, en 91, il dit on n'est plus en 68, on est en 91, il faut ouvrir les portes. Est-ce que vous pensez qu'à ce micro, il dirait on n'est plus en 91, on n'est plus en 68, on est en 2018, mais il faut les ouvrir quand même?
À votre avis? Bien sûr que oui. D'ailleurs, il a fait un disque qui s'appelle Amour, Anarchie, parce que l'anarchie est synonyme d'amour pour lui, de respect.
Il parle de tendresse révolutionnaire.
De ton prochain, voilà. On l'a merdé, on lui disait, oui, mais vous êtes anarchiste, mais vous arrêtez au feu rouge. Vous respectez les règles. Je dis, mais non, je respecte pas la règle, je respecte la personne, la vie, qui est en train de passer avec le verre. C'est une espèce de, ouais, c'est pas une règle, c'est un code, parce que sinon on se rend pif dedans et puis c'est fini, quoi. Donc on a toujours voulu, voilà, quoi, justement, comme je vous disais, soit on l'aime, soit on le déteste, et les gens qui l'ont détesté, et qui le détestent encore sûrement aujourd'hui, voilà, qui a toujours voulu l'embêter avec le fait qu'il gagnait de l'argent, et voilà, l'anar à la Rolls, il n'a jamais eu de Rolls-Royce, mais il y a eu cette rumeur qui encore aujourd'hui, depuis 50 ans encore, j'entends l'anar à la Rolls, quoi, c'est... Et voilà, quoi. Alors, tu gagnes. Alors, s'il avait été avec une deux chevaux et pieds nus, alors voilà, c'est l'anar, le démagogue. Et puis, voilà, quoi. Tu peux pas, on veut rentrer dans tes concerts gratos. Et puis, si, alors, là, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Les autres, on les avait jamais emmerdés, hein. Gainsbourg, il avait une Rolls, pourtant, lui, on l'a jamais été lui dire. Ah ouais, c'est dégueulasse, Serge, ouais, t'as une Rolls, c'est tout, pourquoi?
Ah oui, il y a certainement eu.
Oui, il y a certainement eu, mais Léo, c'est encore aujourd'hui. Et puis, moi, je me fais allumer.
Mais c'est peut-être parce qu'il portait un discours tellement rigoureux politiquement, voilà, qu'on lui demandait une forme d'intransigeance.
D'accord. Mais comme il dit dans Et basta, il dit, moi, Monsieur Ford et Monsieur Fiat gagnent de l'argent en exploitant les ouvriers dans leurs usines. Moi, je gagne ma vie avec mes idées que j'envoie dans la rue, ça te gêne. Je vois pas pourquoi où est le problème, quoi. Moi, ça me gêne pas, quoi. Parce qu'il n'en gagnait pas aussi au début de sa carrière, quand personne l'aidait, quand dans les années 40.
Et pendant un moment.
46, 47, 48, 50, 51, 52, 50. Et après, il y a eu Paris Canaille en 53, ça lui a fait mettre un peu du beurre dans ses épinards. D'accord, mais c'est une chanson, c'était au début de sa carrière, il n'y avait pas beaucoup de trucs, c'était des petits concerts, des petits cabarets, c'était des petits cachetons, c'était... Alors là, personne venait lui dire, ah ben Léo, c'est bien ce que tu fais, donc on va t'aider, tout ça. Non, alors après, dès qu'il peut gagner un peu sa vie, on va l'emmerder avec ça, justement, par les idées et par les choses qu'il dénonçait, qu'il disait, quoi. Donc voilà, c'est...
Encore bon, très... Monsieur. Encore très actifs, ces textes de Léo Ferré, politiquement, pour vous, PR2B, vous les recevez, parce que vous avez beaucoup parlé de la dimension musicale, de la dimension visuelle, visionnaire de sa poésie, de la dimension poétique, mais c'est encore acerbe, à vos oreilles,
par rapport politiquement? Non, enfin, moi je trouve que, je sais pas, dans la chanson je sais pas, dans la chanson de vitrine que dont parlait Mathieu, le tout dernier, c'est les vitrines de l'avenue, c'est mes poches à moi quand je rêve et que j'y fouille à main perdue des lambeaux de désir qui lèvent. Bon bah, je sais pas, toute jeune personne qui entend ça, surtout avec un texte comme, enfin, après avoir eu tout le parcours de chansons de mes parents, de chansons un peu engagées, ensuite j'ai découvert aussi le rap, qui est une autre manière de faire de la chanson engagée. Et ensuite, quand j'ai réécouté Léo Ferré, je me disais à un moment, il y a quelque chose de cette scansion et de la portée, d'aller dire quelque chose, moi, dans mon rapport à... Là, j'ai 27 ans de jeunesse avec... je sais pas, ces textes-là, ils sont importants quand j'ai des amis qui se font tabasser dans les universités parce qu'on leur ferme des grilles, parce que des doyens décident de fermer des portes sur eux. On a aussi envie d'écrire des choses et que la poésie, c'est aussi des lambeaux de désir qui lèvent, quoi. Enfin, c'est important. Donc.
Des lambeaux de désir qui lèvent. Merci beaucoup, PR2B. Ce disque, il s'appelle C'est Extra. Il réunit plusieurs musiciens, dont par exemple Gontard, Corté, Réel, Charlie O. Il est publié grâce à La Souterraine. Et on pourra vous entendre tous ensemble, notamment au Centre Pompidou à Beaubourg, à l'occasion du Week-end Imagine, coproduit par Centre Pompidou et France Culture. Et pour vous entendre, vous, PR2B, on peut vous retrouver le 20 avril prochain au Centre FGO Barbara à Paris, le 21 avril au Festival du Printemps de la Chanson à Cucuron, le 25 avril au Confort Moderne à Poitiers, le 29 à Bourges dans le Off du Printemps, le 11 mai à Pantin au Barboteur, le 18 mai à Biexcel pour une soirée souterraine, le 19 pour une nuit des musées à Lille et le 9 juin à La Loge à Paris.
Je voudrais que tout s'arrête à là, du temps compté des hommes. Je voudrais que cette vie s'en aille, comme la mer s'en va là-bas.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous donne de la joie de
Mes enfants.
Juste le temps de leur laver le sel. Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vraiment ne vous fait plus rire?
Le cynisme.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui ne vous fait plus rire?
Les hommes politiques m'ont jamais fait rire, mais là particulièrement, que ce soit en France, en Italie, ailleurs, me font pas vraiment rire.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h et quand vous voulez sur franceculture.fr ou en podcast au son ce soir, c'était Clément Daté à la réalisation Lise-Marie Barré, Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre et Corinne Amar m'aident à penser cette émission et je réponds @MarieRicheux sur Twitter.
Car vous mourrez des signes en ces temps de mathématiques supérieures, vous n'avez plus la mer, vous n'avez plus les grands oiseaux, vous n'avez plus les bonnes tempêtes qui mettaient de la musique dans les cheminées, vous n'avez plus vos beaux amants qui inscrivaient l'amour dans les cris de la nuit. Ces temps de catalepsie, vous n'avez plus cette parole qui vous est dictée du fond des esclavages, des rotatives, des antennes, des hauts fourneaux, des records, quels qu'ils soient. Et 20 ans, mec, d'outre saison, d'outre là-bas, et de la nuit des temps, en déversé de vinaigre, d'épines, de raisins glacés. Il vous dit que les temps étaient venus d'une mise en question de vos morales essoufflées. Il vous dit que ce temps dont on a parlé, que cet enfer que vous portiez en vous comme un nœud de vipère, n'était qu'un paradis honteux, et qu'un enfer policier. S'habiller plus en confection, mais selon des schémas de fantaisie et de libre service. Il vous dit que l'amour n'était plus à réinventer, mais à faire. Que l'argent n'était plus à gagner, mais à prendre. Que la maladie n'était plus à dorloter, mais à surprendre dans ses moindres détails. Il vous dit que les chemins de glace valent parfois les routes fleuries, des printemps dirigés chaque fin de semaine, chaque jour férié, chaque minute déclarée sur la feuille des loisirs, chaque seconde retirée à votre entendement, en ces temps des perchings dans la province de Moscou.